donne la parole à Brigitte Moïse-Durand, qui est pédopsychiatre, psychanalyste en CMPP à Melun, et qui va nous présenter « Papa est parti à la guerre » ou l'histoire de la femme de Nam Xuong.
La femme de Nam Xuong, oui. Oui, merci Hélène. Mon exposé aujourd'hui concerne plutôt mon trajet personnel plutôt que mes patients. Je suis pédopsychiatre, psychanalyste et co-thérapeute aussi à la consultation transculturelle de la Maison de Solène. Mais ce dont j'ai choisi de vous parler aujourd'hui, c'est quelque chose de l'ordre de, comme on avait dit ce matin, des ponts construits entre différentes cultures, un pont que j'utilise tout le temps, des va et des vient entre la culture française et puis la culture vietnamienne, qui est ma culture d'origine, puisque je suis arrivée en France à 18 ans. J'ai commencé à faire médecine en France. Voilà. Donc je voulais vous parler d'un... Quand Jonathan m'avait parlé du colloque, il avait réanimé en moi quelque chose qui était là depuis quelques mois. Je voulais vous parler d'un conte très ancien, d'un conte transcrit au XVIe siècle par un écrivain, un des premiers écrivains du vietnamien connu, Nguyen Du, qui est l'histoire de la femme de Nam Xuong. Alors, ce que je vais faire d'ailleurs, j'espère avoir le temps, je vais faire une analyse du conte, mais fidèle à la méthode introduite par Devreux, je ferai une double analyse. D'abord une analyse historique et culturelle, au moment où le conte est transcrit, et puis une analyse psychanalytique pour essayer de dégager le plus de sens possible de ce conte qui avait survécu à l'épreuve du temps, malgré un style et un thème qui dépassé, quoi. Parce qu'en fait, ce conte est issu de ce qu'on appelle d'un livre, un des premiers ouvrages d'écrivains vietnamiens, qui s'appelle Le vaste recueil des légendes merveilleuses, Chuyện Ký Mang Lục, qui a été écrit en chinois littéraire, en fait, qui est comme c'était la coutume de l'ancien Vietnam, et qui est considéré comme un des ouvrages écrits les plus anciens du Vietnam. Voilà. Donc je commence par le conte que j'ai laissé tel quel avec la traduction d'un traducteur vietnamien qui est paru dans la collection de l'UNESCO, mais j'ai un peu raccourci parce que vous allez voir, c'est ce que je disais, le style est un peu dépassé. Alors Je vais vous le dire. Alors, Vu Thị Tiếc était originaire de Nam Xuong. Nam Xuong, c'est une province du nord Vietnam. Elle était discrète et chaste, tout en étant d'une beauté parfaite. Dans le village, un jeune homme du nom de Chuong l'épousa. Mais il était d'un naturel trop jaloux et soupçonneux, ce qui lui fit commettre des excès dans la sauvegarde de la vertu de sa femme. Pourtant, elle s'était toujours bien conduite d'après les règles de la morale et jamais on ne l'avait vue ou entendue en faute. Leur union durait depuis quelque temps quand éclata la guerre contre le Champa. Bien que d'une famille aisée, Chuong, le héros, était inscrit sur la liste des conscrits car il n'était pas étudiant. Sa mère lui fit des recommandations qu'il écouta prosterné. Puis sa femme lui versa du vin dans une coupe et lui fit ses adieux. Quand elle finit de parler, les gens de l'entourage ne pouvaient retenir leurs larmes. Et ce fut le départ. À ce moment-là, la jeune femme était déjà enceinte. 12 jours après le départ de son mari, elle donna naissance à un petit garçon qu'elle prénomma Dan. 6 mois étaient écoulés. Sa belle-mère tomba gravement malade, belle-mère donc la mère du mari, donc, et malgré tous les soins, mourut en 10 ans à sa belle-fille. Je vais mourir sous peu et ma mort te causera beaucoup d'ennui. Mon fils est loin. Vivant ou mort, il ne peut revenir à temps. Mais plus tard, le ciel, récompensant ta sincérité, te donnera beaucoup de bonheur. Donc, elle bénit sa belle-fille. Ta descendance sera prospère et nombreuse. Veuille le ciel ne pas t'abandonner, toi qui ne m'as pas abandonné. La jeune femme était très affligée de la mort de sa belle-mère et pratiqua les rites funéraires comme si c'était ceux de ses propres parents. L'année suivante, le Tiampa rebelle fut ligoté. Les armées se dispersèrent enfin et le jeune homme revint chez lui. Sa vieille mère avait quitté le monde et son enfant commençait déjà à parler. Il demanda l'emplacement de la tombe et emmena l'enfant seul avec lui. Mais l'enfant pleura et ne voulut pas y aller. Son père le consola en lui disant « Ne pleure plus, mon fils. Ton père souffre d'une grande douleur. » Le fils lui répond « Êtes-vous vraiment mon père ?» lui dit l'enfant. « Puisque vous savez parler, vous n'êtes pas du tout mon père d'autrefois qui, lui, restait toujours muet. » Le jeune homme, très étonné, lui demanda des explications. L'enfant lui répondit « Avant votre arrivée ici, il y avait un monsieur qui venait toutes les nuits. Quand ma mère marchait, il marchait aussi. Quand elle s'asseyait, il s'asseyait aussi. Et jamais encore, il ne m'a porté dans ses bras. » Jung, déjà très soupçonneux de caractère, dès qu'il eut entendu les paroles de son fils, s'englua sans pouvoir se défaire dans des fausses déductions, dans des soupçons incontrôlables. De retour à la maison, il laissa libre cours à sa colère. Sa femme lui dit en parlant « J'étais d'une famille pauvre et j'ai eu le bonheur d'entrer dans ta famille glorieuse. Le bonheur de notre union n'était pas encore complet que tu as déjà dû partir. » Nous fûmes séparés pendant 3 années et je te suis restée fidèle. Comment aurais-je pu avoir un cœur de favorite et une conduite légère comme tu le dis? Que ne puis-je mettre à jour mon cœur pour te débarrasser de tout soupçon? Mais Chun s'obstinait à ne pas la croire. Et lorsqu'elle lui demanda d'où venait ce bruit, il s'abstint de dire que ce sont les paroles de l'enfant, mais se justifiait toujours par d'autres paroles. Il l'humilia souvent et maintes fois la chassa. Les efforts des villageois et des membres du village pour la défendre étaient restés vains. N'y pouvant plus, un jour, elle jeûna, prit un bain purificateur, se rendit au fleuve Huang, leva la tête au ciel, proféra une invocation et se jeta dans le fleuve. Chun désormais vécut solitaire dans la chambre vide. Nuit après nuit, il alluma la lampe froide et ne parvint pas à s'endormir. Soudain, son enfant s'écria « Voilà papa qui revient !» Chun lui demanda « Où est-il ?» Le petit lui montra alors son ombre jetée sur le mur de la chambre et dit « Le voilà !» Alors Chun comprit que pendant son absence, sa femme esselée montra souvent à l'enfant sa propre ombre pour lui dire que c'était son père. Maintenant, qu'il connaissait l'innocence de sa femme, l'irréparable était déjà commis. Bon, je vous laisse. Voilà. C'est un conte très triste et un peu obsolète, parce que, mais important dans le sens où ça nous, c'est un conte du XVIe siècle et ça nous donne beaucoup, beaucoup de renseignements sur les relations hommes-femmes, les relations mère-enfant, les relations belle-mère-belle-fille, que je vais essayer de dégager là. Et puis je vais vous essayer de vous dire ce que moi j'ai trouvé et pourquoi ce conte est resté, parce que ce conte est resté très connu par des générations de Vietnamiens. C'est un conte qui est rejoué souvent dans les théâtres. C'est un conte qui a été filmé, transposé, mais filmé. Alors pourquoi cette histoire a survécu autant? Voilà, donc ce sera la deuxième partie. Donc première partie, analyse historico-culturelle. Alors Wing Yu, qui est l'écrivain, c'est un brillant lettré qui a vécu donc au début du XVIe siècle. Alors le XVIe siècle, c'est une période extrêmement troublée dans l'histoire du Vietnam. Le XVIe siècle succède au XVe. Le XVe qui en fait a vu l'apogée de la dynastie des Lê, dont le premier empereur, Lê Lợi, avait vaincu les Tiam. Alors donc après la défaite d'Étienne, dont il était question là dans le conte, Lélaï avait bien stabilisé le pays et avait offert un pays enfin en paix. Pas pendant longtemps, mais bon, voilà. Et donc la monarchie des Lé avait beaucoup favorisé le développement du confucianisme, qui est devenu doctrine officielle. Et non seulement ce qui va avec le confucianisme, c'est le recrutement des hauts fonctionnaires par les concours nationaux, comme la préhistoire de l'ENA presque, voilà. Alors. Mais à l'époque de Wingyu, la dynastie des Lé commençait à être très affaiblie, minée par les intrigues de cour, les conflits. Il y a certains mandarins, dont Wingyu, l'écrivain, se sont retirés dans leur pays natal afin de ne pas avoir à servir l'usurpateur, et ils se sont mis à écrire pour tuer le temps. Et de là sont venus les principaux ouvrages en vietnamien littéraire, qui est en fait le chinois. Parce que dans le vietnamien ancien, il y a une particularité. C'est le Vietnam ancien a toujours été bilingue. Il y a une langue officielle réservée à l'élite qui s'appelle le Han, qui est le chinois en fait, qui est la langue de la cour, la langue des concours des hauts fonctionnaires. Et puis il y a une langue parlée, une langue populaire, qui est le sino-vietnamien, qui s'appelle le Nom. Avant que le vietnamien ne soit alphabétisé, avec l'alphabet occidental au XVIIe siècle par Alexandre de Roth. Voilà. Donc avant, donc quand même bilinguisme de langue. Et donc le vaste recueil de légendes là dont je vous parle, le Chungki Manglop, est l'œuvre donc d'un mandarin lettré, donc écrit en chinois. Alors. Classiquement, au Vietnam, on décrit trois influences philosophico-religieuses au Vietnam, s'opposant tout en se complétant. Vous avez donc le bouddhisme, qui est caractérisé par... qui prône le renoncement, quoi, qui est caractérisé par ce qui est impermanent, qui pense que la vie est éphémère et qui prône le renoncement. Alors vous avez le taoïsme avec une multitude de dieux et de déesses, mais là, le taoïsme il prône une démarche individuelle de recherche de l'immortalité du corps, du bien-être du corps. Et puis vous avez après le confucianisme qui fonctionne lui carrément comme une école morale avec des codes de bonne conduite. Alors au XVIe siècle, là où on est là dans ce conte, la doctrine confucianiste après son apogée du siècle précédent reste quand même prépondérante au Vietnam. Alors, confucianisme, c'est une organisation sociale hiérarchisée hein, pour assurer l'harmonie collective. L'important, c'est l'harmonie collective. Et c'est une organisation qui est basée sur des codes de bonne conduite et une division sexuelle marquée. Donc, d'une part, vous avez le pouvoir et le devoir des hommes, et de l'autre, le devoir des femmes. Alors les conditions féminines ne sont pas faciles, comme je l'avais déjà démontré dans mon étude, d'une étude que j'avais faite sur un conte qui est un conte vietnamien qui s'appelle Tam Cam, qui est la Cendrillon vietnamienne. Mais donc je vais vous juste résumer. Donc suivant les codes confucianistes, une femme doit respecter trois obéissances Tam Tam et quatre vertus. Alors Tam Tam, trois obéissances, elle doit obéir à son père, à son mari, à son fils aîné. Quatre vertus, Kam Yung Ngong Han, alors là c'est encore terrible. Alors Kam, c'est les travaux ménagers, elle doit savoir tenir une maison, je vois des sourires. Yung, être belle, la beauté, mais pas n'importe quelle beauté, la beauté modérée. Yung, Yung, c'est une beauté juste qu'il faut. Alors Ngong, c'est terrible aussi parce que Ngong, c'est la parole, mais aussi la parole juste qu'il faut. Une femme ne peut pas parler plus haut que sa tête. Et alors Han, c'est bonbon, je trouve. Enfin, c'est le savoir se comporter. Donc, tout est régi. Une femme, enfin, c'est... Voilà. Alors, donc, pas besoin d'être, enfin bon, psychanalyste pour comprendre que les injustices et que les difficultés que les femmes doivent affronter tous les jours deviennent très vite des impasses sans issue, pour peu que le destin s'en mêle, comme dans ce conte, que la guerre fait mourir la guerre qui peut faire mourir le fils, qui peut éloigner le fils et faire mourir la mère de chagrin, ou la jalousie d'un mari qui peut pousser la femme au suicide. Donc quand Wing Yu écrit ce conte, il s'inscrit un peu, enfin, en féministe, quoi. Il essaye d'aller contre, enfin, de faire valoir le mauvais sort fait aux femmes, et il les venge un peu et les sublime un peu, suivant la tradition taoïste. Mais voilà, et donc c'est quelque chose qui est quand même un peu obsolète, parce qu'heureusement qu'au Vietnam, maintenant, ça ne se passe plus comme ça. Mais la question que je me pose, c'est que pourquoi ça continue à toujours à nous fasciner, ce conte. Et je pense qu'il y a un contenu latent. Sous des dehors sociologiques manifestes, il y a un contenu latent. Alors, un contenu latent, on arrive à ce que moi j'appelle l'approche psychanalytique. En fait, ce contenu, il m'est arrivé comme ça. Depuis 2 ans, je suivais un séminaire de Julia Kristeva sur le langage. Alors pour Julia Kristeva, le langage, il y a deux langages, enfin deux strates, quoi. Il y a le langage, un enfant qui commence à parler, il peut dire des choses, mais mais il n'a pas encore accès au symbolique. Et il peut dire, elle appelle ça le langage imaginaire, elle rapproche ce langage au langage de la poésie. Et puis après, vous avez le langage symbolique, avec manipulation des concepts abstraits. Elle les différencie assez bien. Elle appelle le sémiotique et le symbolique. Et alors et pendant qu'elle me disait ça, le conte m'est revenu en tête et je lui en ai parlé. Et elle m'avait dit, elle m'a répondu, I buy. Ça veut dire j'achète, mais ça veut dire que tu vas écrire quelque chose et tu vas montrer. Et donc je ne l'ai pas fait jusqu'à ce que Jonathan me parle de son colloque. Alors je me disais que dans ce conte, cet enfant, il n'a jamais vu son père avant l'âge de 3 ans. Son père était parti à la guerre 12 jours avant sa naissance. Quand il avait 6 mois, sa grand-mère paternelle meurt. L'enfant, dès lors, est complètement seul avec sa mère. Et quand son père revient, il parlait déjà. Alors que s'était-il passé entre 6 mois et 3 ans? Et je pense que c'est ça, le génie de la femme de Nam Soon. Le pourquoi elle continue à être vénérée par des générations plus tard, c'est d'avoir recours à son ombre, sa propre ombre, pour apaiser son fils, pour le séparer d'elle et le faire grandir malgré l'absence du père. Cette ombre chinoise que j'ai mis entre parenthèses, de la mère sur le mur de la chambre le soir, quand elle allume la lampe au coucher, a fait fonction de ce que Freud appelle le père de la préhistoire individuelle. Père défini par Freud et repris par Kristeva comme étant une partie de la mère, père qui a permis à l'imaginaire de l'enfant de se développer en attendant le retour ou l'arrivée du père géniteur oedipien, du père oedipien. Pour Kristeva, il s'agit d'une étape très archaïque du développement. Elle appelle du futur être parlant. Elle appelle ça l'identification primaire, cette identification primaire, elle est directe et immédiate. Freud parle de Einfühlung, pour ceux qui lisent Freud, comme une sorte de fulgurance qui n'est pas sans rappeler l'hypothèse de l'irruption du langage dans l'histoire de l'humanité, hypothèse reprise par Lévi-Strauss. Ce père archaïque comporterait les caractéristiques des deux parents. S'agit-il de la mère phallique ? Pas vraiment, juste un pôle tiers permettant à ce sujet, au sujet à ce stade archaïque de se distancier de la dyade mère-enfant. Pas encore instant symbolique, mais amorce de la tiercité que préfigure le désir de la mère pour un autre que l'enfant. Son père à elle, peut-être, le père de l'enfant, une instance extra-familiale ou symbolique, comme parfois le dit Marie-Rose. N'empêche que dans l'incertitude de ce dégagement s'esquisse l'espace imaginaire où se tient ce tiers aimant, père de la préhistoire individuelle, clé de voûte de nos amours et de notre imagination, a dit Kristeva. Elle rapproche ce degré zéro de l'identité, de l'identification primaire, selon Freud, du stade du miroir de Lacan ou du moi-peau de Didier Anzieux. Moi, je rajouterais, moi, ça me fait penser plutôt au prélude à la vie fantasmatique de Michel Fain et de Denise Braunschweig, où la mère, au moment où elle devient amante, qu'on appelle la censure de l'amante, elle endort son enfant parce qu'elle a besoin de se retirer de cette relation mère-enfant pour être amante. Et ce que disait ce matin le pédopsychiatre de Besançon, je parlais de ce rythme où l'enfant a quand même besoin d'être séparé de la mère, même pour pouvoir la retrouver, mais pour que cette mère ne soit pas tout le temps avec lui, parce que si elle était tout le temps avec lui, l'osmose serait terrible. Alors, cette ombre qui est de la mère projetée sur le mur permet pour moi un espacement entre mère et enfant. Elle rassure, apaise et donne à l'enfant une certaine autonomie sur laquelle pourra s'étayer l'image narcissique ou au contraire sans laquelle le miroir volera en éclats. Et peut-être que cette ombre, elle empêche l'osmose autant que la guerre sans merci où alterne autodestruction et destruction de l'autre. Et pour moi, l'ombre de la mère figurant le père de la préhistoire individuelle est une barrière contre la psychose infantile. Et je crois, moi, que dans les pays asiatiques, c'est cette ombre qui joue le rôle de père de la préhistoire individuelle. Voilà, je vous remercie.
Merci beaucoup, Brigitte, pour ce... Alors, elle n'est pas du tout obsolète, cette histoire, hein. Enfin, vous le savez bien, loin de là. Et ça me faisait penser, enfin, je me permets du coup d'ouvrir la discussion, je faisais un lien direct avec quelque chose qu'on a entendu ce matin par Christian Lachalle concernant une étude de Génie Aubry, hein, sur les enfants de la guerre avec ces quatre groupes. Il fait partie du quatrième groupe, hein, c'est-à-dire ceux des enfants dont les pères ont été prisonniers et sont revenus, le groupe le plus en difficulté en devenir, enfin, l'enfant de cette légende est dans ce groupe-là. Peut-être que c'est justement cette ombre portée qui a fait qu'il s'en sort pas si mal que ça, enfin, à discuter, mais il y avait un lien.
C'est vrai, tu as raison, c'est cette ombre qui fait que l'enfant s'en sort pas mal, sauf que le confucianisme fait de telle sorte qu'en fait c'est la mère qui paye, c'est la mère qui part, qui se suicide. Et c'est ça, quoi. Et je reviens encore aux œuvres de Julia Kristeva. Elle a écrit un bouquin qui date, mais elle dit qu'elle continue à penser que c'est vrai. Elle a été en Chine dans les années 68 avec Roland Barthes. Et donc, elle a écrit Les Chinoises. Et elle appelle Confucius mangeur de femmes. Et je crois que, bon, le confucianisme a beaucoup, beaucoup de qualités, mais la femme... C'est quand même relativement difficile d'exister dans le confucianisme, quand même, en tant que femme.